alerte, alerte. En raison de la situation, l'été est officiellement annulé. Je répète, l'été est officiellement annulé.
Quoi ? Mais c'est pas possible, l'été, le soleil, le sable, les barbecues, les nouvelles expériences. On peut pas tout annuler, c'est pas possible.
Bon, ok, mais comment on fait alors ?
Bah, je sais pas moi, à nous d'imaginer. Si bel été, l'émission estivale de Radio PFM 999, libre et sans pub. Des infos sur les festivals de l'été.
Bon bah là c'est mort.
Des sorties culturelles.
Ouais, c'est pas gagné.
Bon, on va bien trouver des trucs à faire ensemble.
Oh oui.
De la musique, des infos et des idées dans Décibel été.
Avec les Animos de Radio PFM, du lundi au vendredi de 18h30 à 19h.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Décibel été, l'émission estivale de Radio PFM qu'on peut retrouver donc du lundi au vendredi sur votre radio associative préférée. C'est Honorine ce soir en direct et je ne suis pas seule dans les studios puisque je suis accompagnée de Sabdil. Salut Sébastien.
Salut Honorine.
Donc tu es dans les studios avec nous pour nous proposer donc ton premier album que tu as sorti il y a déjà un peu plus de 6 mois, mais le confinement fait que tu le ressors, tu l'as ressorti début juin avec Musica Tuva, donc on va en parler pendant toute l'émission. Et puis à la fin de cette émission aussi, tu nous proposeras un live de ton album. Alors Sébastien ou Sebdil, de ton nom de scène, on te connaît également avec un autre duo, celui de Monsieur Rémy. Je viens de le dire, tu viens de ressortir en solo ton premier album franco-espagnol qui s'intitule El Rubio, donc fin juin avec l'association Musica Tuva. Donc c'est un projet guitare-voix, mais sur certains titres on peut entendre du saxophone, notamment sur le titre Marginal. C'est un projet plutôt flamenco ou en tout cas teinté d'inspiration de musicale Amérique latine. El Rubio, si j'ai pu le voir sur internet, c'est une commune de la province de Séville. Est-ce que c'est un lien, donc cette ville, l'Espagne bien sûr, avec le titre de l'album ?
Alors l'Espagne oui, El Rubio non, je ne savais pas que c'était une ville de Séville. Essentiellement ça veut dire le blond. Et c'est un surnom qu'on m'a donné en fait quand j'ai commencé à faire des groupes flamenco et latino. Et c'est le surnom que la personne qui m'a appris la guitare flamenco m'a donné quand je suis rentré un peu dans ce milieu. Et pour moi, c'était tout un symbole parce que ça voulait dire aussi que je faisais partie intégrante de ce milieu hispanophone. Et comme on a pu discuter tout à l'heure hors antenne, effectivement, je ne suis pas espagnol. Et donc, des moments, ce n'est pas toujours facile de rentrer dans un domaine où c'est que des Espagnols ou des Latinos qui participent en général, quoi, effectivement.
Alors c'est quelque chose qui est relativement surprenant. On entend souvent des groupes qui sortent des albums franco-anglais. D'où t'es venue cette passion pour le flamenco ? Alors, et la langue espagnole, bien
ouais,
sûr.
Alors c'est déjà il y a un petit moment, le premier rapport que j'ai eu avec le flamenco, c'est en faisant du jazz, bizarrement, ou en écoutant un concert sur Jazz 6. C'était une émission de jazz qui passait sur M6 avant, où il passait des concerts de jazz, et où je suis atterri sur le trio Paco de Lucía, John McLaughlin et Alde Meola. Je suis tout de suite tombé amoureux de ce trio. Le lendemain, j'ai tout de suite acheté le CD parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Et voilà, j'ai tout de suite exploré ça. Après, c'était un moment où je n'écoutais pas du tout de rock. Je commençais à peine le jazz et je faisais plutôt du grunge à l'époque. Donc, rien à voir. Mais petit à petit, au fur et à mesure des années, des rencontres... j'ai essayé d'aller vers ma passion, qui n'est pas toujours évidente. Pour la petite parenthèse, c'est vrai que parce que ben, j'ai fait des études au conservatoire et que ce n'est pas des sections qu'on propose en fait, tout simplement dans les conservatoires. On ne propose pas des cours de flamenco, on ne propose pas des cours de musique latine ou des cours de musique du monde, des moments, souvent pour la percussion, mais rarement pour la guitare. La guitare, c'est soit classique, soit jazz.
Donc, le flamenco est un dérivé du jazz?
Non, c'est pas un dérivé du jazz. Alors moi, je l'ai connu par le jazz parce que effectivement, Paco de Lucía, c'est un des premiers, une des premières personnes en flamenco en fait qui a mélangé le flamenco avec le jazz et les musiques du monde. Et donc ça a fait sortir le flamenco justement de l'Espagne et ça a permis de faire connaître le flamenco au monde entier. Ici actuellement, quasiment tout le monde connaît ce que c'est le flamenco et a déjà au moins vu un petit extrait de flamenco quelque part. Effectivement, c'est grâce à lui et Camarón, donc qui sont deux grandes personnes et figures du flamenco, qu'ils ont fait sortir le flamenco d'Espagne, en fait.
Donc, c'est un album 12 titres. Tu abordes des thèmes assez universels, le voyage, la vie, l'amour aussi. Est-ce que tu peux peut-être me parler de ces thèmes? Donc, sur les titres, on peut entendre aussi des extraits à la fois en français, puis bifurqué aussi sur l'espagnol.
Ouais, alors effectivement, ça m'est venu naturellement. Il y a quelques années, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Et naturellement, au début, par exercice d'écriture, j'ai commencé à écrire en espagnol. J'écrivais déjà en français depuis longtemps. Et donc, c'était naturel pour moi de faire ce mélange, comme dans ma musique, c'est-à-dire de faire un mélange entre. Parce que l'album est fait comme ça, sur un concept entre les rythmes latinos et les rythmes flamenco mélangés à la chanson française. C'est-à-dire essayer de prendre vraiment l'essentiel du rythme traditionnel, mais le mettre à ma manière. C'est-à-dire avec quelqu'un qui est né dans la chanson française. Voilà.
Alors, dans l'album El Rubio, donc c'est un album où il y a beaucoup, beaucoup de... tu t'es entouré de beaucoup de personnes. C'est aussi un album très familial puisque tu as fait participer donc ta fille, Lini, que tu remercies aussi dans cet album, qui a co-écrit le texte Père et Fille, qu'on va écouter juste après. Donc, c'est véritablement une déclaration d'amour entre un père et sa fille. Comment elle s'est intégrée à ce projet? Est-ce que c'était simple pour vous deux, finalement, de vous livrer comme ça?
Oui, non, plus difficile pour elle que pour moi, je pense.
Parce qu'elle chante en plus. Hein.
Oui, elle chante, elle aime bien chanter. Donc, deux, trois fois, je l'ai invitée à des concerts, en fait, dans des cafés-concerts, à venir chanter avec moi. Donc, on a eu bien pris plaisir. Et effectivement, ce texte est venu d'une façon un peu rigolote parce qu'elle me demande toujours pour chanter. Puis de temps en temps, on voit qu'elle a envie de composer un petit peu. Et une fois, on s'était disputé. Et voilà, je lui ai proposé qu'on écrive chacun nos sentiments. Et c'est comme ça que le texte est né. Donc après, on a retravaillé un petit peu sur le texte ensemble. Et donc, c'était assez logique qu'elle vienne le chanter avec moi. Donc je ne peux pas toujours le faire en live de ce coup-là, mais on l'a déjà chanté deux, trois fois en live. Là, et elle le fait toujours avec grand plaisir.
Donc on écoute Père et Fille, issu de l'album El Rubio par Seb Dil.
J'apprends à devenir parent, comme marcher sur un fil libre et fragile, maintenir l'attention, pas trop mettre de pression, te laisser te construire ton chemin vers l'avenir. Entre une fille et son père, beaucoup d'amour. Et nos vies sont toujours liées de la naissance à l'éternité.
Je veux rester ton bébé et t'avoir à mes côtés, que tu me trouves jolie, intelligente aussi. Je veux que tu sois fière de moi et que tu m'aides dans mes choix. mais pas trop vite, j'ai le temps.
Entre une fille et son père, beaucoup d'amour, quelques colères, et nos vies sont toujours liées de la naissance à l'éternité.
Premier album de cette deal qui s'intitule Elle Roubio. On est toujours dans cette émission Décibel Été avec Seb Deal pour nous en parler. Donc tu as confié le mixage et l'enregistrement de cet album à Marc Bernard de la Cabane du Tirelaine, donc une association lilloise. Comment s'est passée la rencontre avec lui ?
Alors, bah, je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, j'aime bien le côté familial et amitié, en fait. Donc, je fonctionne essentiellement comme ça. Donc, l'équipe qui s'est greffée avec moi sur ce travail, bah, effectivement, c'est un ami percussionniste qui s'appelle Yann Évrard, Jérôme Dupont qui est au saxo et à la flûte. Et c'est Jérôme Dupont qui est ami, en fait, avec Marc Bertrand. C'est un ami de longue date. Et donc, il me l'a présenté. Et donc, j'ai eu la chance, effectivement, d'enregistrer au studio du Tirelaine, qui... Pour moi, c'était vraiment le Graal, parce qu'au début, je devais enregistrer autre part. En fait, ça s'est fait un peu en dernière minute. Mais il représente justement une association des musiques du monde sur l'île. Et donc, j'étais enchanté de pouvoir enregistrer là-bas. Et j'ai eu aussi une petite chance, parce que de ce coup-là, il y a un autre ami qui est venu enregistrer de façon un peu inconnue sur le disque, mais qui est excellent saxophoniste, qui s'appelle Yann Denek, qui nous a fait le plaisir d'enregistrer un solo là-dessus.
Justement, qui était aussi présent lors de la release party, donc fin décembre.
Tout à fait. Donc on a fait une release party, et donc à la release party, même chose. Donc c'était pas la même équipe, parce qu'en réalité c'est un projet seul, et donc j'invite souvent beaucoup de musiciens. À la release party, j'ai joué en trio donc avec Jesse, le percussionniste de Mon Côté Punk, qui joue aussi dans La Rue Qu'est à Nous, et Yann Denek au saxo. Et beaucoup d'invités, parce qu'on était 12 ou 13 invités en tout. Donc,
il y avait vraiment de quoi festoyer avant finalement qu'on connaisse finalement le confinement et puis toutes ces conséquences. Bah, peut-être pour revenir sur la réalisation de cet album, tu as réalisé un crowdfunding, hein, ce que j'ai pu lire, ouais, pour financer cet album. Est-ce que tu peux en parler ? Donc toujours l'importance aussi finalement de se mutualiser aussi pour faire partager sa musique.
Ouais, c'est important parce que bah, c'est vrai qu'un album, ça coûte cher. Pour la petite histoire, donc, j'ai voulu absolument sortir cet album parce que ça faisait pas mal d'années que je tournais, mais que j'avais pas de choses de présentation. Et il y a 2-3 ans, j'ai décidé de vraiment mettre ce projet en avant. Et donc, bah, j'ai fait un clip d'abord et puis après cet album. Et oui, bah, il faut de l'argent pour ça. Et donc, effectivement, j'ai fait un crowdfunding plus ou moins pour pouvoir acheter le CD en avance ou pour pouvoir proposer aussi d'autres choses. J'étais un peu sceptique sur le coup, j'avoue, sur ce genre de fonctionnement, parce que j'ai beaucoup appris à me débrouiller par moi-même, si je compte sur les copains musiciens mais pour venir jouer, mais au niveau financier, c'est vrai que je me suis toujours autoproduit, et donc c'était quelque chose d'important même pour moi de s'autoproduire et pas forcément compter sur les autres. Oui. Là, je l'ai fait, et en fait, j'ai été surpris en bien, avec beaucoup de retours très très positif, et donc c'était plutôt voilà, une bonne nouvelle et un bon moment, et je sais plus, il y a eu 60 participants sur le CD, donc j'ai vraiment une fierté que ça a bien marché en fait.
Et c'est une sorte de nouvelle économie finalement pour de la musique ?
Oui, je pense, parce que clairement, on gagne plus d'argent sur les CD en tant que musicien, et, donc on est beaucoup de musiciens effectivement où on gagne l'argent pour nos concerts, donc c'est-à-dire pour vivre. Et de ce coup-là, on n'a plus forcément autant d'argent qui vient sur le CD. Et donc, oui, beaucoup de groupes, même étant des très connus, font des crowdfunding. Je pense à Marcel qui a fait aussi un crowdfunding l'année dernière. Donc, voilà. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être moins de subventions, moins de choses effectivement qui fait que de temps en temps, au niveau des CD, notamment, on est obligé un peu de fonctionner comme ça.
Alors, comme tu le disais juste avant aussi, donc il y a plusieurs clips qui sont sortis, donc juste après la sortie et ou juste aussi en juste avant la sortie de cet album El Rubio, donc en 2019, tu étais aussi entouré de pas mal de collectifs pour la réalisation de ces clips, donc notamment pour chanter et aussi pour Sin Fonterra. Est-ce que tu peux peut-être en parler aussi de toutes ces rencontres?
Ouais, alors dans le clip chanté, c'est une rencontre, j'aurais tendance à dire, avec Audrey Colors. Chercher une personne pour faire le clip, et c'est cette personne qui est venue à moi. Et bah, effectivement, bon, là, pour le premier clip, c'était assez rigolo parce qu'on a tourné dans un lieu qui m'est cher, c'est-à-dire sur la place de Oisem, dans un café où je vais souvent après le marché et où il y a souvent des improvisations musicales qui se font. Et donc c'était compliqué au niveau logistique parce que ils voulaient pas fermer le café forcément, donc il y avait les habitués, il y avait aussi les 20-25 figurants qui étaient là plus les habitués, et pour finir en fait on a terminé tous en fait tous les habitués ont fait ouais mais si on veut être dans le clip et donc c'était assez rigolo. Et Sin Fronteras, même chose, c'est toujours Audrey qui avait travaillé pour la vidéo. Mais sur le clip là on peut voir aussi Nat à la danse, qui est une danseuse flamenco qui fait partie de la Peña à Lille et la Peña Valenciennes, et c'est dans cette Peña là où moi j'ai appris le flamenco en fait, voilà.
Donc je te propose d'écouter ce fameux titre Sin Frontera, et puis juste après on parlera donc de l'association auquel tu œuvres, Musique à tout va, et puis on parlera aussi encore de cet album.
Grâce à la musique, ils se sont rencontrés. Avec une musique, il a succombé à son charme latin, sa douce voix espagnole. Il en perd son latin en chantant ses paroles. El amor no tiene fronteras, ni país, ni colores, ni barreras. Su corazón es cantar al unísono, sus cuerpos se mezclan con una canción. Thank you. Le temps d'une mélodie éphémère s'entremêle leur langue étrangère, leur tête prise dans un tourbillon d'une envoûtante passion. El amor no tiene fronteras, ni país, ni colores, ni barreras. Su corazón es cantar al unísono, sus cuerpos se mecen con una canción.
Sine Fronteras, issu de l'album El Rubio par Sebdil. On est toujours dans cette émission Décibel Été avec Sebdil pour nous parler de cet album. Donc on en a parlé juste avant, une release party avait eu lieu en décembre donc à la Maison Folie de Oisem avec plein d'invités. Depuis, il y a eu le confinement. Comment tu as vécu ce confinement? Donc j'imagine des concerts annulés ou reportés. Et puis avec l'association ou le collectif Musica Tu Vois dont tu fais partie, il y a eu des projets interactifs qui ont eu lieu durant ce confinement sur les réseaux sociaux, notamment le festival Chez Toi et un dimanche à Oisem. Est-ce que tu peux me parler de Musica Tu Vois et puis de ces projets interactifs qui étaient finalement importants pour continuer à écouter de la musique et à voir des concerts?
Ouais, c'est ça. Le début du confinement, ça a été très compliqué parce que j'ai vu énormément de dates annulées, dont une tournée que je devais faire en Uruguay et en Argentine au mois d'avril. Donc c'est un peu la désespération au début. Assez vite, il y a un café où je joue sur Valenciennes qu'ils ont voulu faire un concert virtuel. J'étais pas très chaud au début, j'avoue, parce que je me disais c'est difficile d'avoir le contact, comme beaucoup de musiciens, parce que j'ai eu des bons et des mauvais retours sur ces live streams, comme on appelle ça, et j'étais pas très chaud. J'ai vécu le premier, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait tout de suite j'ai vu que même si c'était par internet, même si c'était par message, on avait vraiment une interaction et un partage avec les gens en avaient envie, on leur manquait dans le sens qu'ils avaient envie de concerts, de musique, de vivre ça de chez eux, même si c'était chez eux et pas dans les cafés. Et donc en fait on a décidé tout de suite avec monsieur Rémi Lecomte de créer un festival. Et donc ça s'est monté en 2 semaines, assez rapidement. Donc l'association existait déjà, c'est une association qu'on utilise nous pour les artistes, Rémi, David Mailleux, moi, Yann Evra avec la Batucada. Et à côté de ça, on avait envie de partager la musique. Donc j'ai appelé des amis musiciens et des musiciens que j'aimais bien. Et en fait, vite fait, je me suis retrouvé avec beaucoup de musiciens parce que beaucoup de gens m'ont répondu oui. Et j'ai trouvé ça assez génial. Donc, des gens que je connaissais moins, comme Simon Fache, que c'est un ami d'un ami, mais moi, je ne l'ai jamais rencontré. Et tout de suite, il m'a répondu oui. Une demi-heure après, j'avais son message. Père et fils aussi qui m'ont répondu tout de suite oui. Voilà, j'ai remarqué que, ben certes, le public était en manque de concerts, mais aussi les musiciens étaient en manque de partage. Et comme moi, on était frustrés de ne pas pouvoir jouer. Et que, ben, un petit concert comme ça, en live, même si ce n'est pas Internet, ça a réconforté tout le monde. Et effectivement, on a réussi à faire un buzz parce que, ben, on a appelé aussi ben, pas mal les médias pour essayer de tenir au courant. Et ouais, tout le monde a été. Il y a eu un engouement auquel on ne s'est pas attendu. J'avoue, nous, au début, on était partis sur 10, 20 groupes sur un week-end. Pour finir, on s'est retrouvés avec 30 groupes. Et encore, j'en avais plein qui me demandaient ah, j'ai entendu parler que tu fais ça. Vas-y, il y a moyen d'être programmé ou sur un deuxième. Ou... Donc, moi, j'ai tout de suite dit on ne va pas organiser. 2, 3, 4 festivals comme ça, parce que ça demande beaucoup de temps. Et nous, on est des musiciens, on n'est pas des organisateurs. On avait envie de montrer aussi aux organisateurs que c'est pas parce que les salles sont fermées qu'on pouvait plus rien faire. Et donc, moi, j'ai cherché effectivement même des moyens. Alors, pour finir, ça s'est pas mis en place au sein de mon association, mais j'ai vu ça dans d'autres associations que je connais, parce qu'on peut payer aussi les musiciens pour qu'ils fassent un live sur Internet. Donc maintenant, on commence à le voir, voilà, et on peut continuer à faire vivre la culture, même si c'est en confiné, ben, effectivement, essayer de trouver des solutions. À la fête de la musique, j'ai joué aussi à Ernie, où on a été de maison en maison, on s'est déplacé en... un vélo à trois roues avec une petite calèche quoi, à vélo, et en fait on allait de maison en maison jouer comme ça, et je pense que vraiment les gens, ça leur fait du bien dans ce moment de confinement où on était tous un peu perdus quand même.
Et est-ce que tu penses pour toi que c'est une autre façon de faire des concerts pour le futur, l'interaction avec le public, ou au contraire c'était vraiment une solution ponctuelle liée à l'actualité?
Je pense que c'est intéressant pour plusieurs choses. Alors, on a continué, comme on disait tout à l'heure, sur un live une journée à Wasm, parce qu'on on voulait faire quelque chose de plus petit, mais quand même refaire quelque chose. Et là, récemment, fin juin, j'ai aussi fait un échange, on a appelé cette soirée-là, ce live stream Intercambio, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de rapports avec l'Uruguay. Et ben, par exemple, dans ce cas-là, je trouve que c'est intéressant. Donc nous, avec notre association, là, on va continuer tous les 2-3 mois à faire des live streams régulièrement avec l'Uruguay et l'Argentine, pour aussi montrer des artistes ben, là, qu'on ne pourrait pas voir en France, parce que c'est des artistes pas connus internationalement, qui ne vont pas forcément faire le déplacement en France, ou qui vont faire peut-être les déplacements une fois, et qu'on aura peut-être l'occasion de voir une fois. Donc de découvrir aussi d'autres choses. Donc dans cet aspect-là, ça peut être intéressant, parce qu'effectivement, on peut découvrir aussi des groupes de loin, et donc effectivement, dans un certain sens, je pense que ça peut être intéressant pour l'avenir, même si ça ne remplacera jamais un vrai concert avec la bonne sueur et tout le monde qui est là. Voilà.
Alors, donc, on peut récupérer ton CD via ton site internet, et puis tu as une tournée qui arrive dans quelques jours. Hein.
C'est ça. Samedi, je pars dans le sud, j'ai 2 concerts dans les Alpes, et après 2 concerts du côté de Marseille. Et après, je reviens ici, j'enchaîne parce que je joue aussi à Merlimont, Cambrai le 31 et le 1er août. Et après, je prends juste 10 jours de vacances vraiment entre le 1er et le 10 août là, pour me relaxer. Mais sinon, après, c'est reparti. Comme j'ai souvent, effectivement, le confinement, moi, j'étais un peu désespéré parce que mon leitmotiv, c'est vraiment la scène. Et, ben, en général, je fais 60-70 concerts par an. Donc, c'est, voilà, ça manque.
Merci, Sabdil. Donc, ton site internet, c'est sabdil.com. Et puis, on termine cette émission avec un titre live que tu nous proposes, chanter. Donc, un clip est visible sur internet de cet extrait qu'on retrouve, bien sûr, sur ton premier album, El Rubio.
Tout à fait. Allons-y.
Allons-y.
J'ai envie de chanter ma vie, de chanter les rencontres que je fais ici. J'ai envie de chanter nos vies, nos litres engloutis, nos soirées infinies. Parler de ces rencontres que l'on fait autour du comptoir, garder ces gueules en mémoire que l'on voit toujours au bar, ces visages marqués par la vie qui nous ont fait marrer,
visages mélancoliques qui nous ont fait rêver. Ils préfèrent boire plutôt que de penser au paradis ou à l'enfer, si vous voulez. De toute façon, quand c'est fini, c'est fini. De chanter ma vie, de chanter les rencontres que je fais ici. J'ai envie de chanter nos vies, nos litres engloutis, nos soirées infinies. Toutes ces rencontres qui nous racontent des histoires jusque tard, toutes leurs chansons qu'on l'on absorbe comme des buvards. Leurs paroles anarchistes, leur soif de liberté, ils ont mille choses à dire qui nous font rêver. Ils préféreraient boire plutôt que de penser au paradis ou à l'enfer, si vous voulez. De toute façon, quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. De chanter les rencontres que je fais ici. J'ai envie de chanter nos vies, nos litres engloutis, nos soirées infinies. Toutes ces rencontres anonymes à qui j'ai pu parler, ces mecs qui se sont fait et qui m'ont appris, appris à déconner pour pas trop se voir vieillir. Quand vous serez mort, vous resterez des beaux souvenirs. Ils préfèrent user leur corps en marchant, manifestant, même pourquoi pas frôler la mort. De toute façon, quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini.